Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h, l'actualité, c'est avec Amandine Bégaud. Bonjour Amandine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et d'abord, bonne fête à toutes les mamans.
Et oui, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est aujourd'hui la fête des mères. Et savez-vous Stéphane, quel est le cadeau le plus offert?
Le collier de nouilles.
Oui, alors, oui, sauf qu'il n'y a pas école en ce moment, donc on n'y aura pas droit. Les fleurs, premier cadeau à 30%, une vraie bouffée d'oxygène pour les fleuristes après cette crise du coronavirus. Et oui, fermé le 1er mai, jour du muguet, ils évaluent leur perte à 40 millions d'euros. Un mois plus tard, Thomas Dulin, les clients, ça y est, sont de retour.
Boutique Eric Chauvin, bonjour.
Que ce soit par téléphone.
Donc, à livrer un bouquet pour la fête des mères. De la pivoine, très bon choix.
Ou en boutique.
Je viens de commander un beau bouquet pour la fête des mères, c'est très important.
Avec la fête des mères, ça y est, les clients sont de retour en nombre chez le fleuriste. La boutique retrouve de l'animation et ça, ben.
Ça fait plaisir.
Émilie, la fleuriste.
C'est réjouissant, quoi, parce qu'on se dit, bon, bah, on a envie de fleurs, donc c'est plutôt rassurant. Les clients sont présents, c'est le principal.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, là, dans le contexte actuel, cette fête des mères?
Une bouffée d'oxygène.
Fabrice Péchon, un autre fleuriste.
Et du boulot, quoi, surtout. Ce qui nous fait du bien, un peu de travailler en speed après deux mois en dilettante.
Deux mois durant lesquels la boutique de Fabrice a réalisé moins d'un tiers de son chiffre habituel avec les livraisons à domicile. Et la fête des mères ne suffira pas à éponger les pertes.
De toute façon, on ne rattrape pas ce qu'on a perdu. Dans notre métier, c'est comme ça. Ça va nous permettre de surtout refaire une trésorerie et de pouvoir continuer pendant l'été à payer nos salariés, les loyers, les choses en cours de tout le temps.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite du coup?
Du bonheur et de la fleur, beaucoup de fleurs.
Un reportage signé Thomas Dulin. Autre possibilité de cadeau pour cette fête des mères, pourquoi pas un déjeuner au restaurant? Mais attention, hein, en zone orange, notamment en Île-de-France, c'est toujours seulement en terrasse. Restrictions sanitaires obligent. À ce sujet, le président du conseil scientifique appelle ce matin le gouvernement à changer de doctrine. Bonjour Jérôme Florin.
Bonjour.
Il souhaite qu'on accélère le déconfinement.
Oui, laissons les gens vivre, lance Jean-François Delfrécy dans les colonnes du journal du dimanche. Il le répète, la situation est sous contrôle, d'où cet appel. Tout en maintenant les mesures barrières, laissons les choses s'ouvrir et notamment les écoles. C'est pourtant ce même Jean-François Delfrécy qui plaidait pour une rentrée en septembre contre l'avis du gouvernement. Mais aujourd'hui, il voudrait qu'on allège le très contraignant protocole sanitaire qui limite fortement le nombre d'élèves et d'enseignants aujourd'hui dans les établissements. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, y est favorable. Les parents et les entreprises aussi, ça va sans dire. Mais à Matignon, l'heure est toujours à la prudence. Une certitude, il ne se passera rien avant le 22 juin, début de la troisième étape de déconfinement. Donc même si les écoles rouvrent totalement, ce ne sera que pour deux semaines avant les vacances. Enfin, Jean-François Delfrécy n'exclut pas une deuxième vague à l'automne et il faudra dans ce cas laisser tourner le virus chez les plus jeunes et protéger les personnes âgées et fragiles, plaide le président du conseil scientifique qui souhaite une dissolution de ce même conseil en juillet. Pour lui, sa mission est terminée.
Merci beaucoup Jérôme. Jérôme Florin, propos tenus hein, alors que le nombre de personnes hospitalisées en réanimation pour coronavirus continue de baisser. On est à 1059 selon le dernier bilan publié hier soir. C'est le chiffre le plus bas depuis le 18 mars.
Les scientifiques, Amandine, qui recommandent toutefois le maintien du port du masque, mais attention, le jeter par terre va bientôt vous coûter plus cher.
135 euros contre 68 aujourd'hui, jusqu'à 375 euros hein, si vous ne payez pas l'amende dans les 48 heures. Ça vaut aussi pour les mégots ou tout autre déchet abandonné dans la nature. Le décret doit être publié dans les tout prochains jours. Et puis les femmes victimes de violences conjugales peuvent, elles, désormais débloquer par anticipation leur épargne salariale. C'est l'une des mesures qui avait été annoncée lors du Grenelle en novembre. Elle a été publiée hier au journal officiel. L'idée, c'est de permettre à ces femmes de quitter par exemple leur domicile plus facilement et plus rapidement. Céline Piquet, porte-parole de l'association Oser le Féminisme.
La question financière est une question extrêmement prégnante, de pouvoir organiser son départ, trouver un nouveau logement, quitter son conjoint de façon rapide pour se mettre en sécurité et que le frein financier en particulier en présent, quand on a des enfants est un frein au départ. Et puis ce qui est surtout aussi à noter, on n'attend pas un jugement. Dès l'ordonnance de protection, et elle peut être délivrée très très rapidement en cas de violence constatée, on a la possibilité de faire ce déblocage et ça c'est aussi un point important à noter puisque on sait très bien que c'est dans ces moments critiques, on a besoin de réagir très vite. On va dans le bon sens.
La porte-parole de l'association Oser le Féminisme avec Thomas Dulin.
Il est quasiment 9h05 en ce dimanche. Vous restez bien avec nous. On va vous emmener aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de monde encore ces dernières heures à Washington pour dire non au racisme. Et d'ailleurs, le mouvement gagne désormais toute la planète. A tout de suite.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 9h07, la suite du journal avec Amandine Bégaud. Des dizaines de milliers d'Américains ont donc à nouveau manifesté contre le racisme et les violences policières.
Beaucoup de monde, notamment à Washington, aux abords de la Maison Blanche, 15 jours après la mort de George Floyd. La mobilisation ne faiblit pas, Philippe Corbet.
À quelques mètres de l'immense barrière métallique de 3,5 km qui entoure la Maison Blanche, Amy brandit son panneau bien plus grand qu'elle. Elle a plus de 60 ans et c'est la première fois de sa vie qu'elle manifeste.
Je suis juste une vieille dame blanche qui essaye d'utiliser son privilège pour que ça change. Quand j'entendais parler de privilège blanc, je vais être honnête, je ne comprenais pas bien au départ. Ça m'a pris du temps pour comprendre que le privilège veut dire que des choses m'ont été données uniquement parce que je suis blanche. Ça m'a pris du temps pour le comprendre et je ne crois pas être raciste.
Dans ce rassemblement aux allures de kermesse, beaucoup de blancs, comme Amy, qui viennent en famille ou entre amis, et ça réjouit Jamal, qui lui est noir.
C'est formidable d'avoir des gens de toutes croyances, couleurs et âges, différentes générations. J'espère que cette diversité ethnique va conduire à une sorte de changement.
Tant que les blancs ne se lèveront pas, me disait Amy, rien ne changera.
À Washington, le reportage de Philippe Corbet pour RTL. Manifestations également au Mexique, en Australie, au Japon, en Tunisie et même à Pretoria en Afrique du Sud. En France, plus de 23 000 personnes sont descendues dans les rues hier, si l'on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur, au moins 5 000 à Lyon, où Nerissa Emani a rencontré pour RTL Lara, une étudiante de 22 ans.
On est en train de défendre nos vies alors qu'on ne devrait pas. Enfin, c'est quand même terrible de voir qu'il y a des gens, on est en 2020 quand même, encore des gens qui tuent pour une couleur de peau. Les racistes, ils sont partout. Donc là, on met le doigt sur les violences policières, mais il n'y a pas que. Le racisme, il est partout. Il est au travail, il est dans la rue, dans les transports en commun, dans les magasins. C'est un quotidien. Et quand tu nais noir, tu le sais. Tes parents, ils te le répètent. On a moins de chance que les blancs et on le sait. C'est la triste réalité du monde dans lequel on vit. C'est comme ça. Donc il faut que ça change.
Du monde aussi à Lille, où c'était la troisième manifestation en 5 jours. À Marseille, ils étaient plus de 3 000, selon la police, parmi eux, Tony.
Je suis là pour manifester contre l'impunité en cas de violence policière, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais là je le fais pour la France, parce que c'est quelque chose qui arrive quand même ici, moins souvent qu'aux États-Unis certes, mais ça arrive quand même. Et du coup aujourd'hui voilà, c'est en train d'exploser, mais comme toujours on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que la police est raciste. Moi aujourd'hui je ne viens pas manifester contre la police, certainement pas, juste on est là pour leur dire, quand vous merdez, vous devez payer, comme tout le monde, c'est tout.
Tony, dans la rue hier à Marseille, au micro RTL d'Hugo Hamelin, quelques incidents ont éclaté là-bas en fin de parcours. C'est le cas aussi à Metz. Le procureur a été légèrement blessé, venu constater les dégâts causés par les manifestants au palais de justice. Il a reçu un caillou sur le nez. Et puis à Paris, le rassemblement, qui était pourtant interdit par la préfecture, a lui réuni 5 500 personnes dans le calme. Paris, où à 3 semaines du second tour des municipales, Anne Hidalgo est ce matin donnée en tête des intentions de vote, largement à 44%. Si l'on en croit ce sondage IFOP fiduciale publiée dans le JDD, Rachida Dati recueillerait 33% des suffrages, Agnès Buzyn 20%. Au total, on le rappelle, ce sont près de 5000 communes qui doivent revoter le 28 juin, toutes celles où le maire n'a pas été élu dès le premier tour. Dès demain, RTL reprend d'ailleurs son Tour de France. Nous serons à Rouen, puis à Lille mercredi, avant Nantes vendredi.
Le football et le Bayern Munich qui a fait un nouveau pas hier vers le titre de champion d'Allemagne.
Ah oui, puisqu'on joue là-bas à huis clos toujours, bien sûr, on le rappelle. Les Bavarois se sont imposés 4-2 face à Leverkusen, les joueurs qui ont par ailleurs apporté leur soutien à la mobilisation contre le racisme avec à l'échauffement un t-shirt sur le dos portant l'inscription « Carton rouge contre le racisme ». Alors ce genre de prise de position peut-elle avoir une influence? Que disent les Français par exemple de l'engagement des sportifs sur les questions de société? C'est le thème, Jean-Michel Rascol, de notre sondage Odoxa RTL et Groupama cette semaine.
Un champion est-il crédible lorsqu'il s'engage sur les questions de société? 54% des Français, 65% des amateurs de sport répondent par l'affirmative. Mais il existe sur la question un clivage politique. Les sympathisants de gauche à 73% approuvent une telle démarche, quand 63% des sympathisants de droite la jugent inappropriée. En règle générale, 42% de nos concitoyens estiment que l'opinion affichée par un sportif compte. Les tweets récents, par exemple, de LeBron James et de Kylian Kylian Mbappé réagissant à la mort de George Floyd ne sont pas transparents. Bien au contraire, ils interpellent, mais l'impact est deux fois plus prononcé chez les sympathisants de gauche. Le sport n'échappe d'ailleurs pas au sujet brûlant que nous livre l'actualité. 75% des personnes interrogées jugent que les discriminations sont présentes dans le sport. Les mots égalité et équité ne seraient en réalité qu'une vitrine.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
Et ce soir, on va refaire le sport en compagnie d'Éric Silvestro sur RTL entre 19h30 et 20h en collaboration avec nos confrères du Parisien. Aujourd'hui, en France, c'est un grand plaisir de vous avoir, Amandine.
Eh bien, un plaisir partagé, figurez-vous.
On vous retrouve demain matin.